Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans Big Books. Aujourd'hui, je suis très heureuse, il fait beau, le monde est dans une situation abominable. Mais ce matin, je vais vous lire un extrait d'un de mes livres préférés qui s'appelle « Entre le monde et moi, lettre à mon fils » de Ta-Nehisi Coates. J'ai déjà lu un extrait de ce livre dans ce podcast. Si vous scrollez en bas du je sais pas quoi, vous allez peut-être retrouver parce qu'il vient d'être réédité avec un nouveau titre et une nouvelle traduction. Je vais vous lire la préface, qui est une préface inédite de l'auteur. Et voilà, ce texte a beaucoup compté pour moi parce que quand j'ai écrit Billion Dollar Baby, qui avant s'appelait Chair à Canon, Lettre ouverte à mon bébé à naître, j'ai lu beaucoup de textes et quand j'ai lu celui-ci, qui est une lettre à un enfant, c'est devenu immédiatement un de mes livres préférés. Et voilà, donc je suis très heureuse de vous lire cette préface inédite ce matin, ainsi qu'un nouvel extrait que j'ai choisi et qui m'a encore bouleversée alors que je l'ai lu des dizaines de fois. Et un matin, dans les bois, je suis tombée sur la chose, je suis tombée dessus, dans une clairière herbeuse, gardée par des chênes et des ormes écailleux, alors les détails noircis de la scène sont apparus, s'interposant entre le monde et moi. Richard Wright, Between the World and Me, 1935. Préface de Ta-Nehisi Coates. Comme le jeune garçon auquel il s'adresse, entre le monde et moi, a été conçu par deux parents. L'un est le meurtre de mon ami, Prince Jones. L'autre, le besoin impérieux de comprendre pourquoi ce meurtre avait eu lieu, pourquoi il était resté impuni et pourquoi de tels crimes continuaient et continuent de se produire. Prince était un camarade d'université qui avait eu le malheur d'être pris pour un dealer de drogue et qui, pour cette raison, avait été tué par un policier. Mon fils venait de naître. Et plus que toute autre chose, cette mort en particulier révélait crûment l'écrasante et chimérique responsabilité qui m'incombait. En théorie, j'étais chargée de guider et de protéger une vie. En réalité, ma capacité à m'acquitter de cette tâche était tragiquement limitée. Déjà à l'époque, je savais que Prince avait bénéficié de tout ce qui était censé préserver les garçons noirs. Sa famille était très respectée. Il avait été élevé par une mère méritante, il avait beaucoup voyagé, c'était un étudiant brillant, un chrétien évangélique, born again. En bref, il était l'incarnation de l'idéal américain. À ceci près qu'il était noir. Une chose était sûre, je n'étais pas l'incarnation de l'idéal américain, et mon enfant ne le serait pas non plus. Si Prince, dont la vie obéissait à toutes les règles édictées par ce pays, n'avait eu droit à aucune clémence, aucune pitié, alors que pouvions-nous espérer, mon fils et moi ? Demain, ou n'importe quel autre jour, un policier pouvait se lever du mauvais pied et abattre mon fils, sans jamais en subir les conséquences. Comment était-ce possible ? En ce temps-là, je n'avais qu'une compréhension vague et anecdotique de ma situation. Le genre de compréhension que tous les Noirs peuvent acquérir en lisant un peu et en se fondant sur leur expérience personnelle. J'avais senti le scepticisme de la police. Je savais que mon monde noir ne ressemblait pas au monde blanc que je voyais à la télévision, et je savais que c'était lié aux chaînes et aux fouets de l'esclavage, aux pancartes réservées aux gens de couleur de la ségrégation. Je me rendais compte que le racisme était la raison pour laquelle nous stagnions dans la partie basse de tous les indicateurs socio-économiques. Mais le comment, le fonctionnement de la machine qui me reléguait à cette place demeurait un mystère pour moi. C'était comme savoir que les avions volent sans comprendre les principes de l'aérodynamique. La suprématie blanche est un système d'assujettissement prodigieux et parmi ces armes, on a tendance à en sous-estimer une en particulier, la diversion. Partout, il y a des récits erronés, des mensonges, des notions propagées par les films, les histoires ou la littérature dont l'unique objet est de faire porter à l'Amérique noire la responsabilité de sa détresse. Au temps de l'esclavage, une classe intellectuelle s'est constituée afin d'expliquer au pays pourquoi nous étions plus heureux enchaînés. Pendant la ségrégation, les héritiers de cette classe se sont entendus pour nous dire pourquoi nous devions être maintenus, sinon en esclavage, du moins dans une forme d'asservissement. Et aujourd'hui, alors que les prisons sont remplies d'hommes noirs, une autre génération s'est donnée pour tâche de nous convaincre que tout cela était juste. J'aimerais pouvoir vous dire que ces fables n'ont aucune prise sur les Noirs américains, mais ce serait mentir. Si la mort de Prince a été un tel choc, c'est à cause du discours selon lequel la respectabilité, la responsabilité individuelle et une conduite irréprochable constituent le meilleur rempart contre le racisme. Dès que la supercherie s'est révélée manifeste, je ne pouvais plus me contenter d'entamer un nouveau chapitre de l'histoire. Pour moi, c'était la fin de l'histoire, une rupture dans ma compréhension du monde. Prince me révélait que nous n'avions pas simplement été assujettis, mais que notre monde tout entier s'organisait autour d'un mensonge. Au-delà de la lutte matérielle, être libre passait donc par un combat intellectuel. Au cours des 15 années suivantes, j'ai pratiqué l'art du journalisme afin de comprendre la nature de cette marque indélébile que portent tous les Noirs. En 2014, j'ai publié « Le procès de l'Amérique, plaidoyer pour une réparation », un texte qui, quoi qu'il ait signifié pour ses lecteurs, représentait pour moi une sorte de thèse, une dissection de la machine prodigieuse. Je savais désormais qu'à l'origine, il y avait ce que j'appelais la suprématie blanche, un système d'extraction, de vol, de pillage. Je connaissais les lois et les politiques, je connaissais l'histoire. C'était un immense soulagement, l'impression d'être devenu imperméable aux mensonges et à la diversion, la sensation d'être libre. Il était sans doute naturel que je repense alors à l'homme qui m'avait mis sur le chemin de cette quête. Car j'avais beau avoir réuni quantité d'éléments logiques et scientifiques, j'avais beau m'être libérée du mensonge, le sentiment, la peur que j'éprouvais quand je portais mon fils au creux de mon bras était toujours là. Ce moment a coïncidé avec l'essor de Black Lives Matter. Vidéo après vidéo, on voyait des Noirs abattus dans la rue, exactement comme Prince. À présent que je comprenais les principes de l'aérodynamique, à présent que je comprenais la poussée, la traînée et la portance, je ressentais un besoin urgent de parler de la sensation de voler. Voilà comment je me suis lancée dans l'écriture de cet ouvrage. J'ai toujours eu beaucoup de mal à le définir. Je pourchassais un sentiment, un désir d'exprimer les émotions que j'éprouvais en vivant sous le poids de la machine que j'avais disséquée au prix de tant d'efforts. Qu'y a-t-il donc dans ce livre ? Insistait mon éditeur. Je ne savais pas quoi répondre. Je me suis alors souvenue de l'émotion que j'avais ressentie en lisant d'une traite « La prochaine fois, le feu », me demandant comment un texte aussi court pouvait être aussi puissant. C'était exactement ce que je voulais faire. Je parlais du poids de la mort de Prince, que je portais toujours en moi. Je parlais de mon fils, qui prenait conscience de la réalité du monde. Mais qu'était ce livre ? Hormis une longue dissertation décousue, je l'ignorais. Le projet a continué de résister à toute définition jusqu'au moment où il a fallu lui trouver un titre. De nouveau, l'émotion a pris une grande part dans ma décision. J'avais lu à l'université « Between the World and Me », le poème de Richard Wright. J'avais toujours aimé ce mélange de lyrisme et d'horreur. Le soleil était mort dans le ciel, un vent nocturne murmurait dans l'herbe et froissait les feuilles dans les arbres. Les bois déversaient les aboiements affamés des chiens, les ténèbres hurlaient assoiffées et les témoins se levaient et prenaient vie. Mais il y avait aussi le thème. La folie de croire que l'histoire appartient à un passé révolu. Je désirais rendre hommage, inscrire mon travail dans une filiation. Pourtant, même une fois le titre arrêté, mon éditeur et moi redoutions que, comme le livre, il soit éphémère. Et cette crainte a persisté lors de la publication en France. Avec la maison d'édition, nous sommes finalement tombés d'accord sur une colère noire. Depuis, je paie le prix de ma frilosité. Il m'est très vite apparu que j'avais commis une erreur. Et tous ceux qui me l'ont fait savoir étaient noirs. Ils aimaient le livre en général, mais ils avaient le sentiment que je l'avais gâché, en ne conservant pas le titre original. J'ai pris leur déception très à cœur, parce que j'avais échoué à défendre mon titre. J'avais échoué parce que dans un monde où les chiffres de vente sont importants, je n'avais pas été capable d'expliquer pourquoi ce titre était pertinent. Tout ce que je pouvais dire, c'était que « Between the World and Me » me paraissait juste et que « Entre le monde et moi » me paraissait juste. C'était une autre leçon. Je devais apprendre à faire confiance à ce que je ressentais et à la façon dont je voyais les choses. Le savoir que j'avais acquis après la mort de Prince était crucial, parce qu'il mettait des faits et des chiffres sur mon ressenti et sur celui de tous les Noirs. Mais ce n'était pas la découverte de notre condition, une condition bien réelle et que nous connaissions même sans les données que j'avais utilisées pour étayer mon analyse. Ce livre, c'était le ressenti des personnes qui subissaient cette condition. Il décrivait une expérience émotionnelle. Et si cette expérience était réelle, alors les mots que j'avais choisis pour la décrire devaient l'être aussi. Je suis honorée de collaborer avec une équipe désireuse de rétablir le titre original de cet ouvrage en France, un pays où j'ai passé beaucoup de temps à lire, à écrire et surtout à discuter avec des Noirs. Si nous étions parfois séparés par des océans et des années, tous retrouvaient leur histoire dans la mienne. Ce qui m'a le plus touchée dans les échanges autour du livre, c'est de voir qu'il permettait d'ouvrir le débat, qu'il était utile à des gens peinant eux aussi sous le poids d'un mensonge, des gens conscients d'être catégorisés et mis à part, mais qui n'avaient pas le droit de le dire. Mon vœu le plus cher est que dans un monde qui prétend ne faire aucune distinction de race, ce texte incite de jeunes écrivains à interroger ce mythe, à interroger les récits qui les enferment. Je leur souhaite de trouver une liberté pareille à celle que cette quête m'a apportée. Voilà, c'était la fin de la préface de la réédition de « Entre le monde et moi ». Et ce que je trouve amusant, bon, je ne fais aucune comparaison entre moi et Ta-Nehisi Coates, mais ce qui est marrant, c'est que ce texte, quand je l'ai lu, Une colère noire, m'a beaucoup inspirée dans la manière d'écrire ce spectacle que j'étais en train d'écrire, qui s'appelait « Chair à canon », lettre ouverte à mon bébé à naître. Et il y a vraiment beaucoup de choses de ce texte, dans ce texte de spectacle. Et quand le texte est né, quand le spectacle est né, il s'appelait « Chair à canon ». Et j'adorais ce titre. Vraiment, c'était exactement ce que je ressentais en amenant un enfant au monde, que j'étais en train de fabriquer quelque part de la chair à canon. Et au moment de la création du spectacle, en 2019, mes producteurs et puis les gens avec qui je travaillais m'ont déconseillé d'utiliser ce titre. Le spectacle a été créé sous ce titre-là, je l'ai joué 3 fois sous ce titre-là. Et puis après, quand on l'a rendu plus professionnel, qu'on l'a proposé à des théâtres, voilà, le titre a été modifié et c'est devenu Billion Dollar Baby. Et j'ai toujours regretté ce choix. Je comprends qu'il ait été fait dans mon intérêt et dans l'intérêt du spectacle, mais voilà, c'est quelque chose où quand je vois la situation actuelle, puisque je l'ai écrit avant la guerre en Ukraine, avant Gaza et tout ça, et avant le réarmement démographique, et quand je vois la situation aujourd'hui, je me dis que j'aurais dû me faire confiance et garder ce titre-là. Et voilà, donc je trouve ça amusant qu'un des livres qui m'est le plus inspiré ait eu cette histoire de titre que je viens de découvrir en lisant la préface avec vous. Voilà. Et maintenant, je vais me lancer dans la lecture du premier chapitre du livre. Ne me parlez pas de martyr, d'homme mort pour être fêté une fois l'an. Je ne crois pas à la mort, même si moi aussi je mourrais. Et les violettes, pareilles à des castagnettes, prolongeront mon écho. Sonia Sanchez. Mon fils. Dimanche dernier, la présentatrice d'une émission d'information très regardée m'a demandé ce que j'entendais par « perdre mon corps ». Elle m'interviewait depuis Washington et je me trouvais en studio, dans un quartier excentré de l'ouest de Manhattan. Un satellite abolissait la distance entre nous, mais aucune technologie ne pouvait combler le fossé entre son monde et celui au nom duquel on me sommait de parler. Lorsque la journaliste m'a interrogée au sujet de mon corps, son visage a disparu de l'écran et à la place on a vu défiler des mots que j'avais écrits un peu plus tôt dans la semaine. Après les avoir lus à voix haute pour les téléspectateurs, la présentatrice s'est penchée sur la question de mon corps, même si elle ne l'a pas formulée en ces termes, à ce stade. J'ai l'habitude que des personnes a priori intelligentes m'interrogent à propos des conditions d'existence de mon corps sans se rendre compte de la nature de leur requête. Ce qu'elle me demandait précisément, c'était pourquoi je pensais que l'essor de l'Amérique blanche, ou plutôt l'essor des Américains qui se croient blancs, se fondait sur le pillage et la violence. En l'écoutant, je me suis sentie envahie par une tristesse à la fois familière et indéfinissable. La réponse à cette question se trouve dans le bilan des croyants. La réponse à cette question, c'est l'histoire américaine. Cette affirmation n'a rien d'extrême. Le culte que les Américains rendent à la démocratie laisse peu de place à la conscience de l'avoir parfois renié. D'autant plus que la démocratie est une divinité miséricordieuse. Après tout, les hérésies américaines, la torture, le vol, l'asservissement sont si répandues parmi les individus et les nations que nul ne peut s'en prétendre exempt. Au fond, on ne peut même pas accuser nos concitoyens d'avoir trahi leur Dieu. Lorsqu'Abraham Lincoln déclarait en 1863 que la bataille de Gettysburg devait permettre au gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple de ne jamais disparaître de la surface de la terre, il ne s'agissait pas d'une vaine promesse. Au début de la guerre de sécession, les États-Unis d'Amérique pouvaient se prévaloir de l'un des taux de participation aux élections les plus élevés au monde. La question n'est pas de savoir si Lincoln était sincère quand il parlait du gouvernement par le peuple, mais de comprendre ce que notre pays entendait par le mot « peuple » et l'évolution de sa signification au cours de l'histoire. En 1863, le terme ne se serait appliqué ni à ta mère, ni à ta grand-mère, pas plus qu'il ne nous aurait inclus, toi et moi. Ainsi, il ne faut pas chercher le problème de l'Amérique dans une quelconque trahison du gouvernement par le peuple, mais dans la manière dont le dit « peuple » a été défini. Cela nous amène à un autre idéal tout aussi important pour les Américains, un idéal qu'ils tiennent pour acquis, bien qu'ils ne le revendiquent pas consciemment. Ce pays croit que la race est un trait avéré et fondamental du monde naturel. Le racisme, le besoin de prêter à un groupe d'individus des traits spécifiques, puis de les humilier, de les rabaisser et de les détruire, découle inévitablement de cet axiome. On en vient ainsi à concevoir le racisme comme l'enfant innocent de mère nature, et à déplorer le passage du milieu ou la piste des larmes, de même qu'on exprime sa tristesse et son impuissance face à un tremblement de terre, une tornade ou tout autre phénomène, ne relevant pas de la responsabilité humaine. Or, c'est la race qui descend du racisme et non l'inverse. Le processus qui a permis au peuple de se définir ne reposait pas tant sur la généalogie et sur la physionomie que sur une hiérarchie. Les différences de teint et de cheveux ne datent pas d'hier. En revanche, croire à la supériorité d'une couleur de peau et d'un type de cheveux est plus récent. De même que l'idée selon laquelle ces caractéristiques seraient des facteurs pertinents pour organiser correctement une société et qu'elles seraient l'expression de qualités profondes et inaltérables. Voilà le nouveau concept au cœur de l'idéologie qui a donné naissance à ces nouveaux êtres élevés dans la conviction inébranlable, tragique et erronée qu'ils étaient blancs. Comme nous, ces nouveaux êtres sont une invention moderne, mais contrairement à nous, leur nom n'a aucune raison d'être si on le dissocie d'un appareil de domination criminelle. Avant d'être blancs, ces gens étaient autre chose, catholiques, corses, gallois, mennonites, juifs. Et si ce pays veut être à la hauteur de ses aspirations, alors il faudra qu'ils le redeviennent. Peut-être un jour se résoudront-ils à établir leur mythe sur des fondations plus nobles et à être de véritables Américains. Ce n'est pas de mon ressort. D'ici là, il faut bien reconnaître que le blanchiment des tribus disparates, c'est-à-dire le tour de passe-passe qui a permis à des individus de se persuader qu'ils étaient blancs et supérieurs, ne s'est pas accompli en organisant des dégustations de vin et des kermesses, mais en pillant des vies, dans la liberté, le travail et la terre d'autrui, en fouettant des dos, en enchaînant des membres, en étouffant les contestataires, en détruisant des familles, en violant les mères, en vendant les enfants et en commettant toute une série d'actes dont le but premier était de nous priver, toi et moi, du droit de protéger notre corps et d'en disposer. Ces nouveaux êtres n'ont rien inventé. Il y a peut-être eu, à un moment donné de l'histoire, une grande puissance dont l'essor ne s'est pas appuyé sur l'exploitation brutale d'autres êtres humains. Si tel est le cas, je ne l'ai pas encore rencontré. Il n'empêche, la banalité de cette violence ne peut servir d'excuse, car l'Amérique se veut tout sauf banale. L'Amérique est convaincue d'être exceptionnelle, la plus grande et la plus noble des nations. Le chevalier solitaire qui défend la blanche cité de la démocratie contre les terroristes, les despotes, les barbares et tous les ennemis de la civilisation. On ne peut pas à la fois se prétendre surhumain et arguer que l'erreur est humaine. Je propose donc de prendre au mot nos concitoyens quand ils invoquent l'exceptionnalisme américain, autrement dit d'exiger de notre pays qu'il se conforme à des principes moraux exceptionnels. Ce n'est pas facile, car autour de nous, tout nous incite à tenir l'innocence américaine pour acquise et à ne pas gratter la surface. Et il est tellement plus simple de détourner le regard, de savourer les fruits de notre histoire et d'ignorer le mal commis au nom de notre nation. De toute façon, toi et moi n'avons jamais réellement eu ce luxe, je ne pense pas t'apprendre quoi que ce soit en disant cela. Je t'adresse ces mots alors que tu es entré dans ta 15e année. Je t'adresse ces mots parce que cette année, tu as vu Eric Garner mourir asphyxié pour avoir vendu des cigarettes, parce que tu sais que Renisha McBride a été abattue pour avoir demandé de l'aide, que John Crawford a été tué alors qu'il faisait ses courses dans un supermarché. Tu as vu des policiers en uniforme assassiner Tamir Rice depuis leur voiture, un enfant de 12 ans, qu'ils s'étaient engagés par serment à protéger. Tu as vu un homme arborant le même uniforme roué de coups, une grand-mère, Marlène Pinnock, sur le bord de la chaussée. Et tu sais désormais, si ce n'était pas déjà le cas, que les forces de l'ordre de ton pays sont habilitées à détruire ton corps. Peu importe que cette destruction soit la conséquence d'une réaction disproportionnée, peu importe qu'elle soit le résultat d'un malentendu, peu importe qu'elle trouve son origine dans une politique absurde. Si tu vends des cigarettes sans autorisation, ton corps peut être détruit. Si tu as un mouvement de contrariété quand on veut t'entraver, ton corps peut être détruit. Si tu empruntes un escalier sombre, ton corps peut être détruit. Les agents de ta destruction n'auront pas de compte à rendre. La plupart toucheront leur retraite. Et la mort n'est que l'expression ultime d'une domination dont les prérogatives comprennent la fouille, la détention, les coups et les humiliations. C'est le lot commun de tous les Noirs. Et cela n'a rien de nouveau pour les Noirs. Il n'y a jamais de responsable. Les destructeurs ne sont pas particulièrement malfaisants et notre époque n'a rien d'unique. Ces hommes agissent conformément aux lubies de notre pays. Ils tirent de son histoire et de son héritage les conclusions qui s'imposent. Ce n'est pas facile de l'accepter. Pourtant, tous les termes que nous employons, rapport de race, écart entre les noirs et les blancs, justice raciale, profilage, contrôle aux faciès, privilège blanc et même suprématie blanche, servent à occulter le fait que le racisme est une expérience viscérale, qu'il déloge le cerveau, obstrue les voies respiratoires, déchire les muscles, arrache les organes, fend les os, brise les dents. Ne te voile jamais la face. Et toujours souviens-toi que la sociologie, l'histoire, l'économie, les courbes, les diagrammes, les régressions, tout, en fin de compte, retombe avec la plus grande violence sur le corps. Voilà, là, c'est un des passages que j'adore dans le livre. C'est un des passages que j'adore dans le livre, mais c'est que le premier chapitre. Et des passages comme celui-là, il y en a des dizaines. Mais voilà, c'est un des moments que je trouve particulièrement beau. Ce dimanche-là, à la télévision, j'ai tâché d'expliquer tout cela à la journaliste du mieux que j'ai pu dans le temps qui m'était imparti. À la fin de l'entretien, elle a montré une photographie qui circulait beaucoup sur les réseaux sociaux, représentant un jeune noir de 11 ans, en pleurs, dans les bras d'un policier blanc. Et elle m'a interrogée au sujet de l'espoir. J'ai compris alors que j'avais échoué. Et je me suis souvenue que je m'attendais à cet échec. De nouveau, je me suis étonnée de la tristesse indéfinissable qui m'envahissait. Pourquoi étais-je triste au juste ? Je suis sortie du studio et j'ai marché un peu. C'était une paisible journée de décembre. Des familles qui croyaient être blanches se promenaient. De jeunes enfants, élevés pour être blancs, étaient attachés dans leurs poussettes. J'étais triste pour eux, mais aussi pour la présentatrice et tous les spectateurs qui se berçaient de faux espoirs. J'ai soudain compris l'origine de mon mal-être. Quand la journaliste m'avait interrogée au sujet de mon corps, c'est comme si elle me demandait de la réveiller d'un rêve merveilleux. Ce rêve, je le connais depuis toujours. Il a l'apparence des maisons proprettes bordées de pelouses bien entretenues, des barbecues de Memorial Day, des associations de quartiers et des larges allées goudronnées menant aux garages individuels. Le rêve, ce sont les cabanes dans les arbres et les camps de louveteaux. Le rêve a l'odeur de la menthe et le goût de gâteau aux fraises. Moi aussi, j'aurais aimé pouvoir m'évader dans le rêve, rabattre mon pays sur ma tête comme une couverture, mais c'était impossible. Car le rêve reposait sur notre dos et faisait lit de nos corps. Et parce que j'en étais conscient, parce que j'étais conscient que le rêve perdurait au mépris de la réalité, j'étais triste pour ces familles, triste pour mon pays, mais surtout, à cet instant, triste pour toi. Cette même semaine, tu avais appris que les tueurs de Michael Brown ne seraient pas poursuivis. Ceux qui avaient abandonné son corps dans la rue comme une effroyable affirmation de leur pouvoir inaliénable ne seraient jamais punis. Je n'ai pas été surpris. Mais toi, tu étais jeune et tu avais encore la foi. Tu restais debout jusqu'à 23 heures ce soir-là Tu attendais la mise en examen et quand on a annoncé qu'il n'y en aurait pas, tu as dit « Il faut que j'y aille ». Et tu t'es réfugié dans ta chambre où je t'ai entendu pleurer. Lorsque je t'ai rejoint 5 minutes plus tard, je ne t'ai pas pris dans mes bras. Je n'ai pas essayé de te réconforter parce que j'estimais que ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Je ne t'ai pas dit que ça allait s'arranger. Parce que je ne l'ai jamais cru. Ce que je t'ai dit, tes grands-parents avaient déjà tenté de me l'expliquer quand j'avais ton âge. Je vais vous lire un dernier passage qui se trouve à la fin du livre. C'est un passage que j'aime tellement, je l'ai d'ailleurs mis dans l'édition de Billion Dollar Baby, dans les références que j'ai mis à la fin du texte. J'ai mis tous les textes qui m'ont inspiré et nourri, et celui-là en fait partie. Je remercie les éditions Autrement de m'avoir laissé mettre ce passage aussi dans mon livre. Moi, je vais vous lire ce dernier passage que j'adore. Il s'adresse évidemment toujours à son fils. Je regrette de ne pas pouvoir faire mieux. Je regrette de ne pas être capable de te sauver, mais pas tant que ça dans le fond. Une part de moi pense que ta vulnérabilité te rapproche du véritable sens de la vie, alors que les efforts déployés par ceux qui veulent se croire blancs les en éloignent. Le fait est que, malgré leurs illusions, leur corps n'est pas inviolable non plus. Quand leur propre vulnérabilité leur éclate à la figure, quand la police décide que les tactiques conçues pour le ghetto devraient être appliquées plus largement, quand leur société armée tire sur leurs enfants, quand la nature envoie des ouragans qui dévastent leur ville, ils sont plongés dans un état de sidération. Contrairement à nous, qui avons grandi dans des conditions nous donnant à comprendre les liens de cause à effet. En réalité, je ne voudrais pas que tu sois comme eux. On t'a rangé dans une catégorie raciale où tu auras systématiquement le vent en face, où les chiens seront constamment à tes trousses. Et dans une certaine mesure, c'est vrai pour tous les êtres vivants. La différence, c'est que tu n'as pas le privilège de pouvoir ignorer ce fait essentiel. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt. Un tout petit dernier. Je m'adresse à toi ainsi que je l'ai toujours fait, comme à l'homme posé et sérieux que je souhaite que tu deviennes, quelqu'un qui ne s'excuse pas pour sa taille, ses longs bras, son beau sourire. Ta conscience se développe et je ne voudrais pas que tu te sentes obligé de te limiter pour mettre les autres à l'aise. De toute façon, ça ne résoudrait rien. Je n'ai jamais voulu que tu en fasses deux fois plus pour réussir. En revanche, j'ai toujours désiré que tu entames chaque journée de ta jeune vie lumineuse, prêt à lutter. Ne te juge pas à l'aune de ceux qui ont besoin de croire qu'ils sont blancs. Je ne voudrais pas que tu t'enfermes dans ton propre rêve. Tout ce que je souhaite, c'est que tu sois un citoyen conscient dans ce monde terrible et beau. Merci.